motherfuckers.
Bienvenue au Bagarre Club, là où chaque coup compte. Au programme, débats, pronostics et débriefs de combat, interviews, mais aussi retours nostalgiques sur les plus grands moments des arts martiaux mixtes. Bagarre Club, l'émission qui décrypte l'actualité MMA, c'est maintenant et jusqu'à 20h sur Prune.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au Bagarre Club, votre émission 100% MMA, 100% bagarre. On est de retour pour une nouvelle émission en ce mardi 28 mai. Et pour m'accompagner aujourd'hui, l'équipe habituelle, Nora à la régie. Comment vas-tu, Nora ?
Ça va très bien, et toi ?
Eh bien écoute, je me porte à merveille, ravi de faire cette belle émission en perspective. Mes deux comparses habituels pour débriefer cette actualité MMA sont également présents. Hugo, comment vas-tu, Hugo ?
Bah ça va super, et toi ?
Bah merci, vous avez tous me demandé
ouais.
Si je vais bien.
Oui.
Ok, très bien.
Ouais, chacun notre tour.
C'est le comique de répétition.
Écoute, je vais être très mal. Lounis, pardon, est également avec nous. Comment vas-tu, Lounis ?
Bah, très bien, très bien. Moi, je suis très heureux d'être ici.
Toujours présent, on rappelle Lounis qui dort dans le studio.
Tout à fait, qui dort dans le studio. J'ai vaillamment défendu mon titre de champion du coup de Bayard Club la dernière fois. Donc,
ouais, tu avais largement dominé Hugo.
Oui, bon, bah, c'est bon, on va arrêter d'en parler.
Passons à autre chose. On va le rappeler à chaque émission, évidemment. Pour ceux qui nous découvrent, le concept de l'émission est simple. C'est une bande de potes qui parlent de MMA pendant une heure avec des débriefs, des actus, des quiz ou des chroniques en tout genre. Alors installez-vous confortablement, car on est le mardi, et le mardi, c'est Bagarre Club. Au programme de ce soir, cap sur l'UFC 302, avec une grosse preview de toute la carte, et évidemment du main event. Et en fin d'émission, on aura aussi un petit dossier sur les victoires les plus improbables de l'histoire du MMA. Donc voilà pour le programme, sans plus attendre, on commence avec les actus.
How much can you know about yourself? You've never been in a fight. Les actualités MMA de la semaine dans le Bagarre Club.
La grosse actualité MMA du moment, c'est évidemment l'UFC 302 qui arrive dans la nuit de samedi à dimanche. Une carte vraiment très attendue avec beaucoup de gros noms. Et on va se lancer dès maintenant sur le main event. En poids léger, Islam Makhachev qui va affronter Dustin Poirier. Tout ce qu'on peut dire, ce qu'il y a autour de ce combat, c'est que c'est un petit peu la dernière chance pour Dustin Poirier d'aller chercher le titre de champion des poids légers. Juste comme ça, gars, sans trop rentrer dans le détail, est-ce que vous y croyez à Dustin Poirier ?
Non, mais j'ai quand même très envie de voir le combat. Mais non, j'ai du mal à y croire.
Du mal à y croire, Hugo, ouais. Est-ce que toi t'y crois ?
Oui.
Tu y crois quand même ? C'est vrai que Hugo est plutôt du genre à imaginer les scénarios les plus improbables.
Tu trouves ?
Ça a fonctionné une fois quand même. La dernière fois, ça a marché.
C'est mon avis. Ouais. J'ai la référence à Kylian Mbappé. Bref, du coup, Islam Makhachev, donc combattant russe, qui va défendre pour la troisième fois sa ceinture. Les deux précédentes, c'était face à l'Australien Alexander Volkanovski. Ouais. Et cette fois-ci, il fait face à Dustin Poirier. Donc Dustin Poirier, on en avait déjà pas mal parlé quand il avait combattu contre Benoît Saint-Denis. Oui. Et du coup, combattant américain, très très gros striking, mais qui a montré un petit peu des failles, notamment dans les phases au sol, oui. Sachant que c'est la grande force de son adversaire. Est-ce que ça va vraiment être ça, ce qui va vraiment porter préjudice à Dustin Poirier ?
Bah, je pense que oui. En tout cas, sur le papier, c'est quand même ces combats pour le titre se sont terminés de la même manière, à savoir quasiment par la même prise de soumission, à savoir une rear naked choke et un étranglement arrière, hein, tout simplement. Et bon, alors Islam Makhachev, donc son adversaire, a déclaré justement que à chaque fois que Dustin va concourir pour le titre, il se fait étrangler. Donc cette fois-ci, va falloir que lui sorte une soumission de l'espace. Bon, je leur cite comme ça.
Il a dit que je fasse autre chose. Voilà. Il a dit que je lui prépare quelque chose de spécial.
Voilà. Est-ce que c'est ça qui va pêcher pendant le combat ? Je pense. Alors le truc, c'est que Dustin Poirier n'a pas du tout un mauvais sol. Hein. On l'a vu d'ailleurs soumettre Michael Chandler qui malgré tout a un très bon niveau en lutte, mais effectivement je crois pas qu'il soit à même de pouvoir rivaliser contre face à un lutteur en fait comme Islam Makhachev. Mais le truc, c'est que même Islam Makhachev, c'est pas juste un lutteur comme l'était par exemple Khabib, c'est aussi un combattant très très complet et qui justement mêle et arrive comme ça à mixer toutes les techniques de combat. Mais Islam Makhachev fait du pur MMA et avec Poirier qui a quand même une approche beaucoup plus boxe anglaise avec un petit peu de sol, hein, hein, ça lui arrive, mais quand même essentiellement pied-point, et surtout point d'ailleurs.
C'est là où il excelle en tout
cas. Voilà, c'est ça. J'ai du mal quand même à voir comment il pourrait faire la différence, mais bon, c'est du MMA, tout peut arriver.
Évidemment, et du coup, c'est ce que tu as dit, donc Dustin Poirier qui malgré tout a un bon niveau au sol,
ouais.
Mais on sent que c'est quelque chose qu'il a entraîné, entre guillemets, qui s'est amélioré au fur et à mesure de sa carrière. En fait, face à un mec comme Islam Makhachev, donc c'est russe, c'est école daghestanaise, c'est des mecs qui font ça depuis tout petit.
Oui.
Vraiment, c'est dans leur ADN, la lutte. Mais en fait, tous les petits ajustements, toutes les petits, voilà, les intensités à mettre et tout, bah c'est pas du tout les mêmes automatismes. En fait, c'est là où même s'il y a un bon niveau, il y a quand même une grosse différence. Donc voilà, Hugo, toi, tu crois quand même à la victoire de Dustin Poirier. Pour toi, par quels éléments un petit peu ça va passer cette chance?
Déjà, je pense qu'il faut laisser tomber la soumission. voilà,
tu n'as pas envie de voir une guillotine sauter sur Islam Makhachev?
Ah, j'aimerais bien. J'aimerais
il faut
beaucoup,
savoir que ouais, la guillotine voilà. Sauter, c'est quand un adversaire plonge un petit peu au niveau du corps de son adversaire. Et Dustin Poirier, très souvent, il essaye d'aller caser une guillotine en même temps aller faire une amenée au sol. Il le tente très souvent et ça passe jamais.
Ouais. Et ça le met dans une position moins bonne, enfin désavantageuse pour lui. Une guillotine, c'est un étranglement au niveau du cou. Vous imaginez quelqu'un vous attrape les jambes et vous passez le bras en dessous la gorge pour tirer vers le haut. Et voilà. Et donc j'essaye de rester réaliste quand même dans mon rêve. Je pense qu'il faut laisser tomber la soumission, ça n'arrivera pas comme ça, même si. Dustin avait réussi à prendre Khabib en guillotine, ouais. Il avait réussi à bien la prendre. Elle n'était pas passée, donc voilà, faut laisser tomber, je pense.
Justement, en fait, Khabib, donc, qui est le coach et cousin, je crois, d'Islam Makhachev.
Meilleur ami, ouais.
Meilleur ami, ok, pardon, je pensais
je sais pas s'ils sont liés par le sang.
Non, c'est juste son meilleur ami.
Mais dans tous les cas, ça reste son coach. Khabib a connu ça, donc il va avertir Islam Makhachev.
Ouais,
donc ils vont être préparés à ça. Donc,
oui.
Voilà.
La guillotine, je pense qu'elle ne passera pas.
Voilà, c'est ça.
Mais à moins d'une erreur d'Islam Makhachev. Mais il ne fait pas beaucoup d'erreurs. Donc, bon.
Non, et je pense que durant justement son camp d'entraînement, je pense quand même que Khabib et donc toute l'équipe derrière Islam Makhachev a quand même un petit peu réfléchi à ce qui se passerait si Poirier tentait une guillotine sautée. Surtout qu'ils font de la lutte depuis qu'ils ont 4 ans. Donc,
bon. La guillotine, c'est eux, ils ne la prennent pas.
Ah, non.
Mais tout ça pour dire, ouais, je pense que si Dustin Poirier gagne, ce sera par KO.
Mais moi, je vois bien le key punch. Hein. En fait, s'il gagne, pour moi, ce serait un contre.
Le key, je sais pas.
Très soudain, je sais pas, un crochet ou quelque chose qui passe, on sait pas trop pourquoi, arrive à sonner Makhachev et il arrive à le terminer.
Ce qui est important de noter, c'est rappelons que Islam Makhachev a été mis KO au début de sa carrière. Deuxième ou troisième combat à l'UFC, je crois.
Il peut être mis KO. Enfin, c'est dans l'absolu, voilà. On peut le mettre KO.
C'est pas comme Khabib où Khabib n'avait jamais saigné dans l'octogone, ce qui était assez exceptionnel. Mentalement, on sait qu'il est battable en fait. On sait qu'il est, il est capable de prendre un KO. Donc voilà. Donc je pense que il y a toujours moyen en MMA, comme vous l'avez appris. de la manière dure il n'y a pas longtemps avec le combat Gaethje-Holloway. Voilà, tout est possible. Donc oui, tout est possible. Tout n'arrive pas tout le temps. Enfin, les événements les plus rares n'arrivent pas tout le temps. J'enfonce des portes ouvertes, c'est terrible. mais ça arrive des fois. Et on n'est pas à l'abri que Dustin Poirier gagne contre Islam Makhachev par KO ou par décision s'il gère extrêmement bien son combat. Mais ça me paraît
complexe.
Voilà, la décision d'un côté ou de l'autre. Ouais, non. Dustin Poirier qui gagne par décision, pour moi, c'est le plus improbable.
Non, c'est impossible.
Je vais pas dire impossible, mais
hautement improbable.
Voilà.
Moi, je vais rajouter un autre bémol du coup pour Dustin Poirier, c'est ses dernières performances. Donc son avant-dernière performance, il prend un KO contre Justin Gaethje. Ça arrive. Sur un high kick.
C'est des choses qui arrivent. Hein. Tu te bats contre Justin Gaethje.
On a tous déjà pris un KO par Justin Gaethje.
Voilà, ni le premier ni le dernier. Moi, ce qui m'inquiète beaucoup, surtout, c'est la performance contre Benoît Saint-Denis.
Ouais.
Dustin Poirier avait gagné par KO au round 2. Mais on le rappelle, c'était un Benoît Saint-Denis qui était sous antibiotiques, qui était extrêmement diminué. Et Dustin Poirier, le premier round, il se fait mélanger au sol. Quoi.
Ouais.
Il voit pas le jour.
C'était terrible.
Donc je me dis, un Benoît Saint-Denis fatigué qui arrive autant à mettre en danger Dustin Poirier face à un Makhachev qui va venir préparer, affûter comme jamais, ça me paraît quand même très très complexe. Donc voilà, je suis plutôt perplexe là-dessus.
Mais imaginons que Islam Makhachev n'arrive pas à mélanger Dustin Poirier, comme tu dis. Là, il faudra se poser la question. à quel point Benoît Saint-Denis est-il
faire,
bon.
Je vais faire une analogie tu vois, culinaire, mais bon, si ton père arrive à faire une sauce, il y a de fortes chances pour qu'un chef étoilé arrive à la faire, cette sauce. Bah là, c'est un peu pareil, tu vois. Si Benoît Saint-Denis arrive à saturer Dustin Poirier, t'inquiète même pas qu'il s'amarachève, il s'est mélangé aussi, tu vois.
Je pense aussi que ça va pas vraiment poser de soucis, mais bon.
Mais je soulève la possibilité.
Oui,
dis peut-être que ça va arriver.
Après, bon, il faut aussi voir combat par combat. La réalité d'un combat n'est pas la même d'un autre.
Les styles font les combats,
qui sait. Mais ça me semble difficile quand même pour Poirier. Mais ce serait beau. L'histoire serait très belle s'il devenait champion.
Parce que oui, tu parles parfaite transition, Lunis, tu parles d'histoire. Il faut savoir que Dustin Poirier, c'est un combattant qui est plutôt âgé, qui est là à l'UFC depuis très très longtemps. Et en fait, il y a beaucoup de rumeurs, beaucoup de choses qui se disent comme quoi ce serait peut-être le dernier combat de Dustin Poirier à l'UFC. Avant qu'il ne prenne sa retraite,
ce qui ne serait pas choquant.
Ce serait une belle fin.
C'est déjà quelque chose qu'il évoque un petit peu depuis quelques temps. Hein. Déjà avant Benoît Saint-Denis, il disait chacun de mes combats peut être le dernier. Bon, voilà.
Et puis aussi, il a un gros, gros, gros problème avec la défaite.
Peut-être.
Quand il a perdu après. Enfin, il donnait une interview l'autre jour où il disait quand il a perdu par KO face à Gaethje. Il disait, j'allais pas bien, quoi. J'étais chez moi tout seul, j'étais chez moi avec ma famille et j'arrivais pas à profiter et je me sentais seul. J'ai pensé à arrêter ma carrière et d'autres choses, quoi. Donc, ce qui n'est pas bon signe pour sa santé mentale. Et là, en fait, s'il continue, il va forcément reperdre et c'est pas une bonne chose. C'est pas une bonne chose, quoi. Donc, je pense que peu importe l'issue de ce prochain combat, ce serait bien que ce soit le dernier. Et je pense que lui aussi, il est conscient qu'il faut que ce soit le dernier.
Et en plus, il a quasiment tout à gagner. C'est-à-dire que soit il gagne, il devient champion enfin sur son dernier combat. Et dans ce cas-là, il peut prendre sa retraite. Tout le monde lui dit bravo champion, bon vent, quoi. Soit il perd et on sera en mode t'as perdu contre Islam Makhachev, ça arrive, quoi. C'est pas le.
Mais là, honnêtement, je pense qu'il va venir motivé pour faire la performance de sa vie. Là.
Tout à fait.
J'espère.
Nora, tu avais une question ?
Oui, je me demandais, c'est quoi l'enjeu du combat actuel ? C'est pour un titre ou...
C'est pour le titre des poids légers.
Voilà. D'accord.
Exactement.
Ouais, donc c'est... Ce serait bien de finir sur une belle victoire.
Bah voilà, surtout que c'est la catégorie la plus relevée de l'UFC. C'est voilà, donc c'est vraiment, je pense, c'est la catégorie un peu la plus prestigieuse aussi.
Oui, je pense. Donc, non,
avec les flyweight, je pense.
Les flyweight.
Pourquoi tu rigoles ?
Flyweight.
Les flyweight.
Les poids mouches, prestigieuses.
Ouais. Non, pas prestigieuses, mais la plus relevée. C'est je trouve
on parle pas non
les flyweight ils sont 4
les flyweight
non justement il y en a tellement qui tournent en boucle que
non pour moi ouais les bantams
hein, même
mais non les flyweight j'avoue c'est pas ce qui me vient en premier en tête
quand même.
Non, mais parce que les combats en flyweight, donc la catégorie la plus légère chez les hommes, c'est très spectaculaire, mais...
les champions restent jamais très longtemps.
Oui, mais il n'y a pas beaucoup de gens qui sont en flyweight de manière globale. Le vivier est plus petit.
Ouais, c'est vrai, c'est vrai.
Si on parle de prestige, les poids légers sont quand même reconnus depuis même un certain moment comme étant une catégorie hyper relevée.
Bah, c'est là où il y a le plus de monde, en fait.
Voilà, c'est ça. Dans tous les cas, voilà un petit peu pour nos analystes de pré-combat de ce main event, Islam Makhachev contre Dustin Poirier. Les gars, je vais vous demander un pronostic. Alors, il me faut un vainqueur, un round, une manière.
Makhachev par twister, twister choke, je ne sais plus comment ça s'appelle, une soumission complètement tarée.
Twister.
Voilà,
Twister où tu fais retourner la personne.
Voilà, ça au troisième round. Je pense, je pense vraiment que Makhachev va tenter une soumission de l'espace.
Ouais.
Mais un truc.
S'il fait ça, c'est vraiment très irrespectueux.
Après, ça peut faire le jeu de Dustin Poirier. Et si Makhachev prend trop de risques,
peut-être.
Trop le diable.
Mais je veux dire ça.
Voilà.
Mais en parlant de risque, moi, je vais en prendre en disant Dustin Poirier KO round 4.
Ouh, ça me paraît. Si, pourquoi pas.
On te croyait pas pour Holloway Gaethje, on va te laisser ta chance.
Ouais, on va te laisser le bénéfice.
Oui, attendez, avant de dire.
Non, perdu quoi. Tu as gagné le bénéfice du doute. Nora, question.
Oui, autre question. Parce qu'en fait, vous évoquez le fait que Poirier est proche finalement de la retraite. Mm-hmm. Paradoxe. Enfin, est-ce que ça fait de lui un combattant plus endurant ou à l'inverse, un combattant plus fatigué
plus
et
fatigué,
donc
fatigué.
Qui tiendra moins longtemps enfin, mais, la question du round,
mais c'est ça, mais plus expérimenté.
Et on a vu des vétérans qu'on pensait rincer en fait, tenir 5 rounds dans des énormes, des escarmouches terribles. Je pense à Glover Teixeira.
J'ai été sûr.
Qui avait plus de 40 ans lors de son choc face à Jiří Prochazka. et qui a littéralement fait la performance de sa vie. C'était inhumain à quel point il était capable
d'endurer. Je pense aussi à Luke Rockhold contre Paulo Costa.
Oui.
C'était que 3 rounds, mais quand même.
Et puis,
il y avait le caractère qui allait.
Ouais, non, non, il était incroyable ce combat. Mais...
Donc, Donc, évidemment, c'est vrai qu'il est peut-être mentalement un peu plus fort.
Okay.
Parce que voilà, ils ont l'expérience. Là, il y a le côté vraiment dernière opportunité, tout pour le tout.
Ça se trouve, ça va lui donner encore plus de rage.
Et sachant que de base, Poirier, c'est un mec que quand faut aller à la guerre, quand faut rentrer dedans, il y va. Hein, et souvent, il gagne. Souvent, c'est... il en sort vainqueur.
Les scrambles, les.
Le brawl.
Comment on traduit ça?
J'appellerais ça le brawl. Enfin, vraiment
bah,
le
bouet.
Vraiment, les grosses fusillades dans.
Les scrambles eggs. Les scrambles, c'est, ouais, brouillé. C'est des échanges de coups qui sont un peu brouillons. Voilà. Un peu... C'est ça ce que t'as. Non, t'as
non,
dit
non, brawl. Bah, le brawl, bah, ça, mais vraiment, ouais. je pense que dans les pures fusillades de coups, à part peut-être Holloway, il n'y a personne qui est plus balèze que Poirier.
Ouais.
C'est probablement le meilleur striker
dans
à ce niveau-là.
Dans ce genre de catégorie.
Oui, voilà.
Donc, Lounis Islam Makhachev, Hugo Dustin Poirier. Je vais aller sur une égalité. Non, je rigole.
Oh, ce sera incroyable. En vrai, ce serait stylé. Ouais.
S'il y a une égalité, c'est un truc de fou.
Non, mais j'ai envie d'y croire pour Poirier. Voilà, tout simplement. Moi, j'ai envie d'y croire. The Last Dance, à chaque fois, comme on dit. Et je vais aller sur Poirier par KO round 2. Parce qu'à mon avis, si ça va au-delà du round 2, je pense qu'il aura plus de mal. Voilà, tout simplement.
Round 2, je pense, les décibels. Ah ouais, non, les hurlements du public, s'il le met KO au round 2, ça va être...
En vrai, plus j'y réfléchis, plus vous avez raison. Le monde va hurler. Round 4, ça me paraît.
Je regarde, elle est où l'événement? C'est à Louisville, dans le Kentucky, donc aux États-Unis.
Ouais. Donc, devant le public de Dustin.
Tout à fait, ouais.
Ben non, il est.
Non, il est.
Floride.
Non, oui, mais il est américain.
Oui, c'est vrai. Puis surtout qu'il a une très très belle cote aux États-Unis.
Ah ouais.
Donc voilà, c'est un des combattants les plus appréciés. Et je pense qu'il aura à cœur de soulever la ceinture à la fin de cet événement. Ouais, Hugo, pardon.
Du coup, est-ce qu'on peut être d'accord sur le fait que peu importe nos pronostics, on a envie que Dustin Poirier gagne.
Bien sûr.
L'histoire serait belle.
Bien sûr.
Voilà.
L'histoire serait magnifique.
Parce que nous, on aime bien les histoires où l'underdog gagne, un combattant ou une combattante choque le monde, si je puis dire.
C'est ça. Puis en plus, on a un peu la sensation que Makhachev est un peu invincible. Du coup, à chaque combattant, on a envie de le voir perdre. Enfin, moi j'aime bien Makhachev, hein. C'est un combattant spectaculaire, je trouve, qui est vraiment très très bon, il mérite là où il est. Mais c'est vrai que les gens qui dominent, des fois, c'est vrai que ça fait un peu plaisir de les voir tomber, tout simplement.
J'ai essayé de te faire une transition pour la partie d'après.
Dis-moi, c'est quoi la partie d'après?
La partie d'après, c'est les upsets, non?
Ah bah attends, déjà on va faire le reste de la carte, attention.
Ah bah oui, je dis n'importe
quoi. Du coup, on va se faire une première petite pause. C'est quoi la première musique? C'est Willing to Trust? Hugo,
alors, elles sont pas prévues dans ce sort-là, mais du coup, première, ce sera la seconde. La première, c'est Breathe on Me de Britney Spears.
On s'écoute Britney Spears et on revient juste après. À tout de suite.
Yeah.
Bagarre Club.
On est de retour en direct sur Prune, vous écoutez toujours le Bagarre Club. On a fait la première partie de l'émission, on a un petit peu fait la preview du main event de l'UFC 302 qui aura lieu donc dans la nuit de samedi à dimanche. Et là on va enchaîner du coup dans cette deuxième partie sur la suite de la carte, sur les combats secondaires on va dire. On commence avec le co-main event, combat chez les poids moyens, Sean Strickland, donc ancien champion de la catégorie, qui va affronter le contender Paulo Costa. Lounis, qu'est-ce que t'attends un petit peu de ce combat ?
Alors déjà, j'attends une conférence de presse légendaire entre les deux hommes qui aiment beaucoup s'envoyer des piques et ça.
Ces deux personnages
très drôle.
Aux couleurs.
Non vraiment. Non. Bah, alors comment dire ? D'un point de vue purement martial, je pense que Strickland va rester. Ça peut être un combat intéressant parce que Strickland risque de rester à son approche habituelle. Hein, d'ailleurs, énormément travaillé au jab.
Jab.
Voilà. Et avec
marchand de jab.
Voilà, avec une garde justement de en boxe qui rappelle beaucoup celle de Floyd Mayweather. Mais en face, on a justement Paulo Costa, qui est donc combattant brésilien ex challenger au titre, et lui qui a aussi justement un style tout en pas non plus en termes de puissance de KO, mais vraiment en termes de pression. Et il envoie énormément de frappes à son adversaire et il essaye comme ça de le faire chancer. Donc le combat pourrait être intéressant parce qu'on a deux combattants qui ont justement une approche très très axée sur la pression, sur la présence dans la cage, le fait de pas du tout lâcher l'adversaire. Donc ça peut être intéressant. Moi, bon, je vais en glisser deux mots comme ça. Je trouve que Paulo Costa est un des combattants les plus surestimés du roster UFC et en particulier de la catégorie des poids moyens. Je pense qu'il a fait un combat anthologique face à Yoel Romero. Vraiment, si vous voulez voir un combat digne de l'anime Baki en vrai, vous regardez le combat entre Paulo Costa et Yoel Romero. Mais en dehors de ça, j'ai jamais trouvé qu'il avait des performances particulièrement mémorables. Et à l'inverse, Strickland, ben, on peut lui faire beaucoup de reproches, mais c'est un combattant qui a beaucoup, beaucoup travaillé depuis quelques temps pour avoir un niveau vraiment de challenger au titre. Il a d'ailleurs été champion et je vois plutôt Sean Strickland s'imposer face à Costa.
Par KO?
Mais pas impossible. Je miserais pas sur un KO, plutôt sur une décision, mais c'est pas impossible.
Sean Strickland qui a, rappelons-le, mis au sol Israel Adesanya, puis qui, l'a frappé en boucle pendant 10-15 secondes. Et Israel Adesanya ne se protégeait pas et il a pris tous les coups. Et à un moment, il se prenait des coups et il faisait signe à l'arbitre que tout allait bien. Donc Sean Strickland et sa puissance de KO, bon, c'est pas ça.
Hugo, tu vas nous en parler un petit peu plus en détail de Sean Strickland.
Non, c'est vrai que... je refuse.
Non, mais c'est vrai que Lounis l'a dit, ces derniers temps, il a beaucoup travaillé. Ouais. C'est vrai qu'il peut capitaliser sur des dernières performances qui sont vraiment plus que convaincantes. Donc, oui. Il y a une victoire contre Imavov, il y a une victoire contre Adesanya,
oui.
Il y a un combat serré contre l'actuel champion Dricus Duplessis.
Clairement.
Donc est-ce que, on en a pas mal parlé, Sean Strickland c'est un style très particulier, difficile à
appréhender.
Alors
tu as mal dit très chiant.
Non, parce qu'ici on n'est pas dans le jugement de valeur, ici on constate seulement des niveaux, ok. Donc c'est un style particulier qui est très difficile à appréhender pour les adversaires une fois qu'ils sont dans la cage.
Ouais, en effet, ouais.
Belle analyse, Hugo. Merci de sa partie. Ouais. J'ai redonné la parole à Lounis.
Non, mais oui, en effet, comme t'as dit, un style très particulier. Et oui, en effet, très peu divertissant, mais c'est un autre sujet. Oui, c'est ça qui est assez spécial, c'est que c'est un style qui est très redondant, on va dire, et qui caricature à peine, qui se constitue de jab, front kick avant et
re-jab.
Bah ouais, c'est ça. Trois coups. Jab, front kick avant, jab.
Et des fois, quand il a vraiment acculé son adversaire contre la cage, il peut y avoir une droite qui part.
Mais attention.
Mais ça arrive. Mais
attention. Ça arrive peu souvent.
Et du coup, parfaite transition. Si tu nous dis que Sean Strickland a un style un petit peu limité, est-ce que justement Paulo Costa peut passer à de ça pour aller le pousser un petit peu dans d'autres tranchements, lui proposer autre chose qu'il n'a pas eu?
C'est très intéressant, puisque Paulo Costa a un style qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup moins... est le mot que je cherche?
En fait, il a un arsenal beaucoup
orthodoxe.
Plus complet.
Exactement. D'ailleurs, il a failli mettre KO Robert Whittaker sur un... Ouais. C'était un coup de pied retourné.
Spinning back kick.
Un coup de pied retourné, parce que si on est en France, on ne parle pas comme les roast beef. Non, mais je rigole. Non. Non, mais oui, en effet, c'est
la dérive.
un spinning high kick, je crois, ça se dit comme ça. Enfin ouais, bref, ou coup de pied retourné. Et oui, en effet. Ouais, je me moque un peu de parler en anglais parce qu'on a eu beaucoup de personnes sur les médias MMA français qui disent que faut arrêter d'utiliser les noms anglais, etc. Ce que je trouve idiot, mais bref, c'est un autre sujet. Donc voilà, c'était de l'ironie. Mais bref, tout ça pour dire, ouais, Paulo Costa qui a failli mettre KO Robert Whittaker sur un spinning sidekick à son dernier combat. Donc oui, on n'est pas à l'abri de voir un chaos spectaculaire de la part de Paulo Costa, surtout qu'on sait que Sean Strickland peut se faire mettre KO, comme tout le monde, mais on l'a déjà vu se faire mettre KO.
Par Alex Pereira, mais bon, tout le monde se prend un KO par Alex Pereira.
C'est ça. Ouais, vraiment. Je sais pas, enfin bref. Mais voilà, tout ça pour dire que je pense que je vois pas Sean Strickland par KO. On peut faire les pronos maintenant ou pas?
Ouais, si tu veux, ouais.
Eh ben, allez, allons-y alors. Moi, je pense que Sean Strickland ne peut pas gagner autrement que par décision, parce que KO, je vois pas comment c'est possible, et soumission, n'en parlons pas.
C'est pas un combat qui ira au sol, sauf si Paulo Costa nous sort un game plan.
Ouais, c'est très drôle, mais s'il est non, Paulo Costa n'a pas de game plan.
Ouais.
Et Paulo Costa, bah, je peux le voir gagner par décision, comme je peux le voir gagner par KO. Mais pour le coup, ouais, je pense que Lounis, on va pas être d'accord là-dessus. Mais quand est-ce qu'on est d'accord déjà? Non, je rigole, mais le vide. Eh ben merci en tout cas. Je
mais
non,
non,
super
mais
non, mais
je t'écoute. J'attends.
Non, mais oui, mais je pense qu'on va pas être d'accord là-dessus, mais sur quoi on n'allait pas être d'accord.
Paulo Costa, Sean Strickland.
Oui, je sais, mais je sais plus ce que je voulais
dire. Un prono.
Oui, je pense qu'il y a plus de chances que Paulo Costa l'emporte que Sean Strickland.
Bah moi, je pense
qu'il a plus d'outils pour.
Il a plus d'outils, mais il a pas un bon fight IQ. Et je leur dis, enfin, la seule bonne performance de Paulo Costa dernièrement, même si le combat contre Whittaker était serré, hein, j'en conviens, mais c'était contre un Luke Rockhold rincé.
Oh, c'était terrible ça.
Qui lui a quand même mis une sacrée pêche, hein, le Luke Rockhold, alors qu'il était rincé.
Et c'est un peu alarmant que Paulo Costa n'ait pas réussi à mettre KO Luke Rockhold avec ce niveau qu'il avait là ce soir-là.
Tu parles de.
Moi, je pense que je conclurai juste en disant que c'est deux combattants très surcotés, parce qu'on a eu une émergence de fans de Sean Strickland récemment. On en a parlé quelques fois et je me suis dit que j'allais essayer de me calmer là-dessus. Mais bon, Sean Strickland est extrêmement surcoté. Il a un style qui est limité, je trouve. Et je pense qu'il a eu surtout. Ça n'exclut pas le fait qu'il a été champion. Mais je pense qu'il a eu beaucoup de chance dans son accession au titre.
Ok. Voilà. Moi, du coup, je vais être un petit peu plus mesuré que Hugo. Parce qu'en fait, je trouve que malgré tout, en fait, même s'il a un style limité, bah, ses derniers combats, ça fonctionne en fait.
Bah ouais.
Ah, mais je dis pas que ça fonctionne pas. Je dis juste qu'il s'est retrouvé face à un Adesanya qui a fait une contre-performance. C'est le jeu, voilà. Il n'a pas démérité pour cette victoire-là. On a vite vu quel était le vrai niveau après, où il a fait un combat hyper serré face à Dricus du Plessis, où le combat était, honnêtement, hein, c'est l'une des pires performances pour le titre que j'ai vu depuis un moment.
Bah, disons
que tu regardes pas beauf. Hein,
bah, vas-y, dis-moi.
Bah alors Carla Esperanza contre Jonas, ça c'était dégueulasse.
J'ai dit l'une.
Non, elle était le combat était pas spécialement palpitant, mais moi je trouve que
techniquement, tactiquement, c'était vraiment les rats des pâquerettes, quoi. Ouais.
Enfin, bah, je suis pas d'accord, mais
je sais pas, je suis mitigé sur Sean Strickland, c'est pas un combattant que j'apprécie.
Je précise un truc, parce que j'ai l'impression d'être. J'apprécie pas Sean Strickland plus que ça.
C'est vrai que tu le précises à chaque fois.
Mais
quand
non,
même.
Mais parce qu'à chaque fois, je fais l'impression d'être le seul. Je l'apprécie pas, j'aime pas sa personnalité,
non,
mais
je suis
forcé de reconnaître que c'est un combattant qui travaille beaucoup.
Tout à fait. Mmh. Et moi, j'avoue, pour mon pronom, j'ai plutôt allé sur Sean Strickland.
Ah ouais.
Parce que malgré tout, en fait, il a un style qui est difficile à appréhender, en fait, tout simplement.
Ah, je suis d'accord.
Et c'est tellement particulier que bah, ça peut être un peu déroutant pour un Paulo Costa qui, bah, voilà, c'est pas non plus. C'est un très bon combattant, il a des armes et tout, mais c'est pas non plus le combattant complet et ultime qu'on peut avoir. Donc, ouais, non, je pense que le côté déroutant de Sean Strickland, c'est suffisant pour aller chercher un Paulo Costa, même si c'est pas spectaculaire, même si c'est pas au KO ou quoi. Je vois Sean Strickland s'imposer à la décision. Lounis, un petit prono?
Pareil, Shane Strickland par décision. Je vais pas me prononcer sur un KO de Strickland. Je pense pas qu'il arrivera à mettre KO Paulo Costa.
Je pense pas non plus.
Il a combien de KO Strickland à son actif?
Juste avant le combat contre Adesanya, il a mis KO. Hein. J'ai même plus son nom, mais il a mis KO quelqu'un.
Ouais, c'était Magomedov, je crois, un Allemand.
Abus Magomedov.
Abus Magomedov. C'est ça. Pardon. C'était un Allemand.
Forcément, ouais, tout à fait. Il s'appelle Magomedov.
Et non, tout à fait. C'est 11 KO quand même. Ouais. Alors beaucoup dans ses débuts de carrière.
Donc pas à l'UFC,
mais quand même quelques KO. Voilà donc pour ce co-main event, on va faire un petit tour quand même du reste de la carte parce qu'il y a des choses à dire. Kevin Holland, toujours en poids moyen, si je dis pas de bêtises. Ouais, toujours en poids moyen.
Donc il alterne avec les welter et les middle, je crois, si je me rappelle bien.
Ouais, c'est ça. Ouais. Et donc poids moyen toujours, qui va affronter Michal Oleksiejczuk. Voilà, j'espère que je l'ai bien dit, mais
alors,
c'est
pas sûr.
Alors,
je suis désolé, t'as mal prononcé. C'est Michal Oleksiejczuk.
Merci Hugo pour cette analyse linguistique. Kevin Holland, Hugo, je sais que t'aimes bien ce combattant, c'est un combattant très divertissant.
Toujours. Les combats, même s'il fait pas des performances de fou à chaque fois, ses combats sont vraiment cool. Il est capable de mettre KO ses adversaires, il le fait pas tout le temps, mais voilà. Non, il fait des combats vraiment, vraiment divertissants.
Sauf le dernier, malheureusement.
Bah, contre Michael Page.
Ouais. Le dernier, c'est juste qu'il est tombé sur plus fort que lui. Il s'est fait dominer par Michael Page.
Je vous encourage à revoir le combat, mais c'est même pas qu'il s'est fait dominer, c'est qu'on le sentait très, très timoré. Il n'y avait aucun éclat de folie. Il n'y avait pas le.
Il était sérieux et ça lui va pas.
Non, moi je trouve qu'il était pire que ça. Il était à côté.
Il a pris aucun plaisir à ce combat.
Non, mais j'ai l'impression qu'il n'est jamais rentré dans le combat. Tout simplement. Il est complètement passé à côté de son combat.
Et c'est très dommage parce que justement, Kevin Holland, même si ça peut être aussi une faiblesse, hein, je l'imagine pas champion, Kevin Holland, mais cette étincelle un peu de folie, ce côté un peu Deadpool mais c'est vraiment le Deadpool de l'UFC. Hein. Mm. Je trouve que justement, c'est ce qui peut, ce côté très chaotique peut lui donner, donne à la fin un côté très divertissant à ses combats et en même temps, ça lui offre des clés de victoire dans pas mal d'affrontements qu'il a eu. Mm. Et contre Michael Venom Page, vraiment là où on pouvait s'attendre à un feu d'artifice, il est complètement passé à côté de son combat.
Il était vraiment très. Ouais. Moi j'ai dit sérieux, t'as dit quoi? Je crois que c'était plus pertinent.
J'ai dit qu'il était juste à côté, il était pas là, il était jamais rentré dans son combat.
T'as dit mortifère ou morbide, un truc comme ça. Je crois.
Mortifère.
C'est toi le
ministre. Ouais, moi j'ai utilisé le terme mortifère.
Vraiment, c'était plus que sérieux, c'était vraiment beaucoup trop stoïque. Quoi.
Moi j'avais l'impression qu'il était pas là en fait.
Pas stoïque comme Fedor.
C'était pas le Kevin Holland qu'on attendait.
Voilà, tout à fait. Donc dans tous les cas, il recombat très peu de temps après, tout simplement. C'était en mars la dernière fois, donc on est en mai. Seulement 2 mois d'écart entre 2 combats, c'est pas la mort. En revanche, on a un autre combat qui peut être intéressant, pourquoi pas, c'est en poids lourd. Jelton Almeida contre Alexander Romanov. Alors Alexander Romanov, c'est un combattant, quand il est arrivé, il y avait pas mal de promesses autour de lui. On en attendait pas mal. Et malheureusement, une fois arrivé à l'UFC, il y a eu quelques pépins, même si quand même il reste sur une victoire contre Blagoj Ivanov.
Il a fait des grosses performances au début. Quand on l'a vu arriver, nous, on a fait waouh, ça va être un problème. Et au final,
Alexandre Romanov.
Ouais, tout à fait, ouais. Et au final, c'est vrai que c'est des performances. Dès qu'en fait, on arrive à un niveau un petit peu au-dessus, on sent il y a plus de difficultés, quoi.
There is levels to this game.
Exactement.
There are.
Ouais, tu fais un master d'anglais, Hugo, c'est pas sérieux.
J'ai un problème.
Lounis, tu attends quoi toi de ce combat?
Moi j'attends surtout que, enfin bon, ce qui va se passer, hein, Jelton Almeida qui va faire de la lutte. Après il y aura
plus
peut-être
des câlins.
Il y aura peut-être un peu de lutte aussi. À un moment donné, dans un rang, je pense qu'il va y avoir de la lutte. Et ça va se terminer par de la lutte.
Tu penses qu'il va y avoir combien de frappes significatives?
2.
Pendant la lutte. Tu étais gentil. Hein. Non, Jelton Almeida, pour expliquer un peu, Jelton Almeida qui est léger pour un poids lourd et qui combat en poids lourd, on ne sait pas pourquoi. Il doit y avoir une explication logique, mais il est léger pour un poids lourd et il est souvent au début de la fourchette de poids. Ouais. Et en fait, son game plan à chaque combat, c'est je l'attrape, je le mets au sol et je lui fais des câlins. Voilà. Et bon, s'il y a une soumission, il a mis des soumissions. Oui, je pense. Je pose la question. Voilà. S'il y a une soumission qui passe, tant mieux. Et puis sinon, bah, câlin.
Il y a eu beaucoup de soumissions.
Il n'a pas réussi à soumettre Derek Lewis, quand même.
Non, mais alors.
Il a soumis Rosenstruik.
Non, mais avant ça, il y a eu beaucoup de soumissions. Voilà, il avait un petit peu ses dernières performances un peu en dents de scie. Il avait cette réputation du mec qui soumettait tous les poids lourds.
Tu as raison. Ces deux derniers combats où justement il arrive un peu au niveau de la catégorie qui est quand même corsée, au niveau d'au-dessus. Bon, il y a eu Derrick Lewis où il n'a pas réussi à le soumettre, il a juste fait des câlins pendant tout le combat.
Je l'ai vu en direct, ce coup de poing. Je l'ai regardé en
direct. Tu l'as vu ? Tu as réussi à voir à travers tes paupières fermées, Lewis ?
Ouais, je l'ai regardé en direct, ce truc.
C'était horrible.
Ça doit être difficile à voir.
C'est le journalisme. Voilà.
Aucun divertissement. Non. C'est vraiment le degré zéro du divertissement. Il est moins divertissant que Sean Strickland. Imaginez.
Lewis, c'est vraiment le professionnalisme d'avoir regardé ça. Il a enfilé le bleu de travail pour regarder ce combat.
C'était au tout début de l'émission. Je l'ai regardé en direct.
Il allait au charbon.
Dans tous les cas, entre ces deux combattants, ça va être. C'est un peu. Pour les deux, c'est un peu un moyen de se relever. C'est un combat pour se relancer. Ouais. Et je pense que du coup, les deux vont peut-être avoir à cœur d'essayer de tenter des choses, de se relancer un petit peu leur série de victoires et leur carrière à l'UFC. Et ça peut peut-être donner quelque chose d'intéressant.
Parce que Gelton Almeida, en fait, à la manière d'un... Oh là, ouf, toute proportion gardée. À la manière, je le dis souvent ça, toute proportion gardée, à la manière d'un Charles Oliveira, il peut se permettre d'être... Enfin, non, du coup, ça marche pas parce que c'est les poids lourds. J'allais dire, à la manière d'un Charles Oliveira, il peut se permettre d'être plus détendu en striking parce que s'il se fait asseoir et que ça va au sol, il sera meilleur. Sauf qu'en fait, les poids lourds, ils n'assoient pas.
Il couche.
Quand tu te fais toucher, tu dors. Je pense qu'il avait bien compris face à Derrick Lewis.
Oui.
Mais voilà, tout ça pour dire, je pense que ça va être un combat de câlin, un match de câlin.
Voilà.
Bon, en tout cas, on attend de voir un petit peu pour cet événement. Voilà, donc pour cette UFC 302, on a déjà fait pas mal le tour un petit peu des combats principaux. On va faire une deuxième petite pause musicale. Cette fois-ci, on s'écoute Willing to Trust de Kid Cudi featuring Ty Dolla $ign. Et on revient juste après pour un petit dossier sur les plus grosses surprises de l'UFC. Voilà. Allez, à tout de suite.
Your touch paralyzes me in the morning. I don't want you to go. Sincerely yours forevermore. Teach me what I should know when I count on you. Show me something new, honey. Someone and I've been willing to trust someone and I've been willing to trust someone. Yeah. If we ain't got trust, we ain't got nothing. Is this really love? What it's becoming? Funny how we turned into something. Say you wasn't even looking for a boyfriend. Don't need no friends, that shit so confusing. Left your ex, thought you never trust a man again. Don't take it out on me, no. Don't do me dirty, let's make this worth it. I've been willing to trust someone in I've been willing to trust someone.
Bagarre Club.
On est de retour en direct sur Prune, vous écoutez toujours le Bagarre Club. On a déjà fait les deux premières parties de l'émission dans lesquelles on a débriefé longuement l'UFC 302 qui aura lieu donc dans la nuit de samedi à dimanche. Et on va partir sur un petit dossier sur les plus grosses surprises, parce que forcément samedi on attend tous la performance de Poirier. Voilà, peut-être la grosse surprise de Poirier qui bat Makhachev. Et bah pour se donner un petit peu du baume au cœur, pour se donner un petit peu d'espoir,
pour se convaincre
tout à fait, on va essayer de passer un petit peu en revue les plus grosses surprises qui ont déjà eu lieu, et même s'ils ont été plutôt récentes ou non. Les gars, Lounis, je vais commencer par toi. Si on parle de surprise dans l'MMA, c'est quoi la première image qui te vient en tête?
Mais elle est assez récente. Je pense, alors l'une des premières, ce serait Michael Bisping contre Luke Rockhold, hein, bien sûr, mais la première plus récente, je pense que c'est
tellement un truc que Lounis dirait. Genre c'est Solounis que tu viens de dire.
Non, mais plus récente parce que je l'ai vu en direct et j'étais abasourdi, et je crois qu'on en avait parlé dans la rétrospective de l'année dernière, mais Dricus du Plessis contre Robert Whittaker.
C'est-à-dire, ah ouais, à ce point-là.
Ah non, mais vraiment, je n'y aurais jamais pensé, parce que pour moi,
tu es quelqu'un de niche, Lounis.
Mais parce que pour moi, alors il y a celui-là où je pensais vraiment que virtuellement Robert Whittaker n'était pas battable à part par Adesanya, en tout cas dans cette catégorie-là. Et sinon, en vrai choc, la revanche entre Conor McGregor et Dustin Poirier, parce que pour moi, Conor McGregor ne pouvait pas être mis KO. Et quand je l'ai vu commencer à chanceler et se prendre justement le fameux crochet de Dustin Poirier et tomber par terre, non, j'ai halluciné.
Tu en dirais ça aujourd'hui sur Conor McGregor? Ouais, désolé, j'empiète. Tu en dirais ça aujourd'hui sur McGregor? Enfin, parce qu'on voit la tournure de la carrière.
Non, clairement pas. Mais à ce moment-là, et puis j'avais pas justement.
On le pensait,
à l'époque, vraiment, je pensais pas qu'il pouvait être mis KO et surtout qu'il pouvait être outstrike, ouais. C'est-à-dire qu'on pouvait le dominer au point et en striking.
Hugo, à quoi tu penses, toi, donc, en surprise?
Attends, faut revenir sur un truc. La première chose à laquelle tu penses quand on parle de surprise dans le MMA, c'est Michael Bisping contre...
Mais contre Luke Rockhold, mais bien sûr.
Mais Lounis, mais tu te rends compte de ce que tu dis? Tu ne penses pas à Conor McGregor contre José Aldo? Tu ne penses pas à Jiří Prochka contre Glover Teixeira?
Tu ne penses pas
à Alexa Grasso contre Valentina Shevchenko?
C'est pas une surprise. Alors,
tu penses à un combat d'il y a 20 ans? À peine nés.
Je vais me défendre. Grasso, oui, c'est une surprise. Prochaska, non, c'est pas une surprise. C'est la tournure du combat qui a été surprenante, mais pas lui.
Donc c'est une surprise.
Oui, mais.
J'ai spécifiquement demandé à Aurel qu'on change le terme upset en surprise.
La première image qui me vient en tête. À part donc Michael Bisping qui met KO Luke Rockhold et qui devient champion des poids moyens, Dricus du Plessis qui met KO Robert Whittaker.
T'es tellement old.
Moi je pensais
cool
que tu vois, je sais que Leonis c'est un old school. Je pense qu'il serait parti sur Matsera contre JSP.
Non, parce que
c'est vrai aussi.
Parce que là pour le coup c'est encore trop vieux pour moi, honnêtement.
Ah ouais.
Mais c'est déjà trop vieux. Là c'était il y a quasiment 20 ans. J'étais pas là non plus pour Bisping Rockhold, mais. Quand j'ai commencé à suivre le MMA, en tout cas, on parlait encore de cette victoire comme un truc absolument sensationnel, quoi.
Hugo, pardon, à quoi tu penses?
Alors,
comme ça.
Moi, j'en ai plusieurs. Mais il y en a
fais-en,
un.
Fais-en qu'un pour l'instant.
Quoi?
Parce que sinon, tu vas tous les dire et moi, je vais en avoir aucun.
Pas de souci. Moi, ce que j'ai pensé à un Français.
Un Français? Chez Congo?
Exactement.
Contre Pat Berry.
Donc, alors, je ne sais pas s'il était favori ou pas. Moi, je prends pas ça comme un upset dans le sens où tout le monde pensait qu'il allait perdre et il a gagné. Moi, je pense que c'est. Enfin, je pense qu'on peut tous être d'accord là-dessus. C'est le plus grand retour au sein d'un combat de l'histoire du MMA. En fait, c'est-à-dire que donc c'était Cheick Kongo, notre Français pionnier du MMA en France, contre Pat Barry qui est un combattant américain.
Qui est un combattant.
Voilà. Et en fait, Cheick Kongo s'est pris 3 KO d'affilée.
Ouais, il était très chancelant.
Honnêtement, l'arbitre aurait pu arrêter le combat 3 fois en l'espace de
3 secondes.
Ah non, mais Vraiment, c'était terrible. Et en fait, je vous invite à aller regarder sur Internet parce que c'est mythique. Et Cheick Kongo s'est relevé et a mis KO pas de Barry, quoi. Et c'est,
dans
et
la,
c'est...
Ouais, dans les 30 secondes qui ont suivi, même pas. Hein.
Il s'est pris 3 KO, il s'est relevé, il a mis l'autre mec KO. Et ça, et l'autre mec, il a plus bougé. Hein.
Ah oui.
Et ça, c'est exceptionnel.
C'était
dingue. Et je me demande si il y a pas des combattants qui en ont reparlé il y a pas longtemps, parce que en fait on se rend pas compte à quel point Cheick Kongo ça c'était choquant l'époque, et encore maintenant on a, je crois pas qu'on ait revu un truc comme ça où il se fait éteindre, parce qu'il y avait plus personne, hein. il y avait plus la lumière, il y avait plus personne dans
une autre mesure. Moi j'ai pensé à l'UFC 300, Jalin Turner contre Renato Moicano. Turner avait littéralement arrêté, mais il y a eu un round de pause entre temps. Ouais. C'était ça le qui voilà.
Donc c'était ça.
Pareil, mais c'était quand même une moindre mesure. C'était dans un espace un peu plus écarté.
Mais alors c'était impressionnant, mais par rapport à et encore une fois, je vous invite à aller le voir parce que c'est en fait même en le disant, ça on rend pas compte de du niveau de je sais même pas quoi dire de. C'est même pas de la résilience là, c'est il était possédé ce soir.
Ouais, c'est ça. En fait, c'est ça. Tu veux partir sur une deuxième surprise?
Bah oui, bien sûr.
Vas-y, parce que j'en ai deux aussi.
Qu'est-ce que j'avais noté? Bah alors, j'avais évidemment noté José Aldo contre Conor McGregor. Est-ce qu'on a besoin de s'attarder sur le sujet? Je ne sais pas.
C'est même pas, honnêtement, Conor McGregor contre José Aldo, c'est même pas le fait que Conor gagne qui est surprenant, c'est le fait que...
C'est la manière.
La manière, Aldo, en fait. Ouais. Le premier coup qu'il envoie, il le met KO et il met
surtout
fin à
José Aldo.
Et une série d'invincibilité de 10 ans, quand même.
José Aldo qui était considéré...
comme intouchable.
Ah, quasiment. C'est le Léoné... À l'époque, ouais.
Parfaite transition.
Oh là, Hugo, voilà. Bah, du coup, je dis la phrase, c'est le Léon Edwards versus Kamaru Usman de la première heure, si on peut dire.
Oui. Bah voilà, parce que.
Mais pas exactement, même pas, mais oui.
Mais parce que moi, du coup, c'était la première image qui m'est venue en tête. C'est vraiment Léon Edwards qui va chercher le KO contre Usman dans les 30 dernières secondes, alors que
Usman.
Il était en vitesse de croisière, voilà.
Usman
maîtrise.
Il avait gagné le combat. Usman, il avait gagné le combat. Ça lui faisait un combat de plus de gagner. Tout le monde pensait qu'il était imbattable. Et honnêtement, à l'époque, je pense qu'il était imbattable avant de prendre ce KO. C'est ça qui est marrant. C'est que tout le monde est imbattable avant de se faire éteindre. Mais oui, je pense
que... Tout le monde a un plan avant de se prendre un coup.
Exactement. Alors ça, c'est copyright. Hein. Ça, c'est copyright par Cédric Doumbé, là, ce que tu fais, c'est pas bien.
Mais non, c'est Mike Tyson.
C'est Mike Tyson.
Non,
c'est Mike Tyson.
C'est Mike Tyson qui l'a dit quand il avait 21 ans, en fait. Mais...
Le
MMX.
Oh la vache, je suis un MMX, ça y est.
MMX,
ah oui, parce que moi, j'avais pas entendu
Mike Tyson
dire ça.
C'est Mike Tyson.
Maintenant que tu le dis, ça me parle, mais c'est vrai que moi, j'avais entendu Cédric Doumbé qui disait tout le monde a un plan avant de se prendre une patate de Cédric Doumbé.
Mais du coup, oui. Du coup, moi, ouais, le head kick de Léon Edwards sur Kamaru Usman.
Les légendaires.
Personne s'y attendait. Tous les fans de MMA se rappellent où ils étaient à ce moment-là.
Ouais, moi, je dormais. J'avais les yeux fermés. On était ensemble avec Aurel. J'avais les yeux fermés.
Ouais, je somnolais.
Bah oui, parce que moi, Kamaru Usman,
je me rappelle de m'être levé le matin et vraiment, genre, je tapais UFC sur Google et il y avait vraiment, genre, juste l'image de Léon Edwards avec le kick qui, genre, décapite. Kamaru Usman partout.
Et moi du coup je vais aller sur un petit deuxième. On va rester dans les surprises mais plus modernes. On en a beaucoup parlé. Évidemment mon très cher Max Holloway contre Justin Gaethje.
Ça pour vous c'est une surprise.
C'est la performance globale. C'est les 10 dernières secondes. C'est l'UFC 300.
C'est une perf légendaire.
Je vais clairement pas revenir dessus parce qu'on en a beaucoup beaucoup parlé. Il y a pas si longtemps que ça en plus. Mais voilà, là comme ça pêle-mêle, j'en pense à d'autres. Je pense évidemment Strickland contre Adesanya.
Clairement, oui, bien sûr, clairement, très grande surprise.
Voilà. Je pense à quoi? Vous pensez à quoi d'autre là comme ça?
Alors moi j'en avais un et je pense que Lunis va être d'accord. C'était Chris Weidman contre Anderson Silva.
Oui. Ouais, ouais.
Parce que, en fait, il y a une double.
Il y a un truc assez
poétique.
Interprétation.
Parce que je crois que Anderson Silva était largement favori.
Oui.
Voilà, donc tout le monde pensait que Chris Weidman allait perdre. Et en plus de ça.
Et qu'il allait se prendre un KO,
qu'on soit honnête, Anderson Silva avait tout pour gagner.
Oui.
Il a fait un combat dominant. Et pour ceux qui connaissent un peu Anderson Silva, vous savez que c'était quelqu'un qui. Aimait beaucoup, enfin qui était, comment on peut décrire ça, c'était quelqu'un qui faisait beaucoup de célébrations,
de provocations,
très provocateur et très spectaculaire. Ouais.
et qui faisait des esquives qui étaient
dignes de Matrix.
Ah mais vraiment, c'est le terme qui j'ai l'impression que à chaque fois qu'on parle d'Anderson Silva, nous ou d'autres confrères et consoeurs journalistes sur le MMA.
T'es journaliste toi peut-être.
On essaye. Amateur. Non mais oui, j'ai l'impression qu'à chaque fois que quelqu'un parle d'Anderson Silva, il y a le thème de Matrix qui vient directement parce que c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Le mec, on avait l'impression qu'il
voyait les cours ralentis.
Exactement. Ouais. Mais vraiment, aller voir des combats d'Anderson Silva, c'est exceptionnel.
Nora,
t'as une question
Ah ouais, c'est vrai, je te vois pas, t'es dans mon dos, je me tourne, attends.
Non mais t'inquiète. Oui, j'avais une question parce que du coup, je vous écoute évoquer tous ces combats et la question que je me pose, c'est si on essaie de dégager un schéma, enfin si c'est faisable ou pas, qu'est-ce qui à chaque fois explique un retournement de situation comme celui-là ? Est-ce que c'est une faille d'un des combattants
pour moi c'est un éclair de génie, une inspiration, un truc comme ça.
Ou l'inverse justement. Ou alors
une erreur.
Qui fait une erreur, mais terrible. Anderson
en fait,
Silva,
ça joue
par
à quoi finalement un retournement de situation dans le sport de combat ?
Ça peut jouer à beaucoup de choses, ça peut jouer à genre, dans le cas de Leon Edwards, c'est d'un coup il dit... vas-y, tu sais quoi, j'ai plus rien à perdre. J'ai une idée en tête. Ça se trouve, ça va pas marcher, mais je vais quand même essayer de placer le high kick. Ça peut être juste, j'en sais rien, là, dans le cas de
Anderson
Silva, c'est une erreur. Pure et dure d'Anderson Silva et ça connecte et c'est fini.
C'est ça. Et ou Anderson alors... Silva, il donnait, enfin le truc c'est qu'il donnait tout le temps son menton. C'est ça le truc, c'est que ou c'était alors, quelque chose qu'il était habitué à faire. Ou Anderson alors... Silva, il provoquait énormément, il mettait quasiment jamais sa garde. Et en fait, il faisait des esquives et il se faisait jamais toucher. Bah ce jour-là, il a fait le show et il s'est fait toucher.
Et dans le cas de.
Il est parti dormir.
Ouais. Et puis même si on parle de Sheik Kongo ou même je sais pas d'autres surprises comme ça, c'est le syndrome du. Non, je vais pas mourir. C'est-à-dire vraiment, t'as des combattants, c'est et c'est très rare, mais qui arrivent à un moment donné dans le combat se disent, je ne vais pas perdre. C'est-à-dire que même s'ils se prennent un coup, t'as leur esprit qui les réveille immédiatement pour leur dire, non, tu vas pas. Ouais, mais c'est beaucoup plus rare. En fait. Ça arrive pas tout le temps, mais des fois, oui.
Il y a des combattants qui se subliment une fois qu'ils sont dos au mur, en fait.
C'est ça.
Tout simplement. Donc voilà, du coup, pour ce petit dossier, c'est toujours un petit peu.
Ah bah attends, je finis quand même. Le petit dernier, je crois qu'on en a parlé. Alexa Grasso contre Valentina Shevchenko.
Alors, moi, en féminin, j'aurais pensé à Juliana Peña contre Amanda Nunes.
Holly Holm contre Ronda Rousey.
Oui, alors oui, je suis d'accord pour les deux, mais le plus récent, et je pense. Ouais, non, mais c'est vrai que.
Holly Holm.
Amanda
Nunes et Valentina Shevchenko, on pensait vraiment qu'elles étaient invincibles, mais au final.
Mais tu vois, voilà, Shevchenko, moi, il y avait un petit peu le doute du combat d'avant où elle avait été vraiment en difficulté aussi.
C'est vrai, c'est vrai, tu as raison. Mais on pensait quand même qu'elle allait rouler sur Alexa Grasso assez facilement.
C'est ça.
Et ben non, la soumission.
Mais voilà, du coup.
J'étais choqué.
Du coup, donc c'est toujours un petit peu sympa donc, de revenir sur des grands moments en fait du MMA, tout simplement.
Clairement.
C'est des choses qui restent ancrées dans la mémoire des fans. Et c'est toujours sympa de se replonger dedans. On en fera d'autres, des petites thématiques comme ça, c'est sympa. Donc voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à tous de nous avoir écoutés. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure, pour une nouvelle émission du Bagarre Club. Merci à vous. On vous souhaite à tous une très bonne soirée sur Prune. On se dit à la semaine prochaine, même jour, même heure, pour une nouvelle émission du Bagarre Club. Bonne soirée.
Bonne soirée.
Bonne soirée.